la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, il y en a plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Des livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un. Et bonsoir chers lecteurs, chères lectrices, chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans votre émission Un livre sur le zinc en partenariat avec la médiathèque départementale de la Lozère. Aujourd'hui nous allons voyager, un voyage qui ne nécessite pas d'avoir tous ses points sur son permis de conduire, de se demander quelle empreinte carbone nous allons laisser derrière nous, ou si la grève reconductible du 7 mars à la SNCF va nous empêcher de découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles rencontres et de nouvelles histoires qui parfois ne tiennent que sur quelques pages qui racontent bien plus qu'un stage de récupération de points sur votre permis de conduire. Salut Nico.
Salut.
Alors pour nos auditeurs, voilà, entre lundi et aujourd'hui, Nico a eu 3 PV.
Wow.
Donc ce qui est pas mal, bravo. Quand même. Alors ouais, bravo.
6 points.
Alors en fait,
6 points.
Les formateurs, ils vont te laisser animer le stage, ou tu as peut-être formé les formateurs, parce que c'est, il en a fait,
ouais,
2 de stage.
Je connais tout par cœur.
Ouais, c'est ça. Bonjour Pauline.
Salut tout le monde.
Ah, toi tu as la mini odée d'un beau séjour en Bretagne.
Ah oui, au bord de mer, oui oui, les embruns, le sel, ça fait du bien.
Salut Valérie.
Bonjour.
Oh, tu as la mine rosacée d'un beau séjour.
C'est ça, en fait, moi les embruns c'est juste la transpiration des travaux et ouais. C'est le sel qui est sur ma peau.
Salut Blandine qui nous rejoint pour cette émission.
Bonjour.
Alors Blandine est en vacances chez Valérie. Valérie lui dit hop, tu viens me parler d'un livre.
C'est ça, la veille. C'est un peu compliqué, mais ouais. Je suis là.
C'est bien. On t'a vu la travailler il y a 10 minutes, donc on imagine que ça va être bien.
Ah mince, je pensais que ça c'était pas vu.
Non, c'est ça. Alors on salue Marlène aussi, Claire-Lise et Claire, dont
salut
monsieur
Marlène.
A décidé de faire rouler sa voiture sur le toit, ce qui apparemment n'a pas marché, le mari de Claire.
C'est ça.
Qu'on salue.
Lugeant de toi,
mais. Et ouais, non, il s'est arrêté, il est pas rentré jusqu'au bout.
S'il n'utilise pas ses points,
on peut en donner.
Je veux bien qu'il m'enfile.
Eh bien, écoute, il doit nous écouter.
Alors, voilà. S'il y en a qui ont des points, je veux bien qu'on m'enfile un peu.
C'est ça. Vous l'avez compris, on va parler de voyage. Et pour commencer, quoi de mieux que de se réfugier dans une cabane pour un voyage qui peut aussi être une introspection. On part chez l'iconoclaste, pardon, avec Ma cabane, une échappée sauvage d'Olivier Garance, un livre coécrit avec Delphine Sobadbert. Alors, on a tous besoin d'une cabane, réelle ou imaginaire, pour s'échapper et se retrouver, Nico.
Ouais, super bouquin. Ah, je me suis régalé sur ce livre. J'ai lu ça, pouf. Voilà, un petit ovni. Cet Olivier, en fait, c'est un géographe qui démarre très mal dans la vie, puisque c'est un petit voyou, en fait, et qui se fait coincer par sa grand-mère et un ancien instituteur à la retraite, qui vient le voir et découvrira plus tard en fait que c'était aussi un poète, un très grand poète, et qui lui dit bon maintenant t'arrêtes tes conneries, tu veux faire quoi dans la vie, qu'est-ce que tu aimes. Pendant 4 heures il se regarde dans le blanc des yeux, lui il est au fond de la, il est à l'autre bout de la table et puis il le regarde comme ça dans les yeux et puis il dit rien, je lâcherai rien. Puis au même il fait bon maintenant t'arrêtes tes conneries, qu'est-ce que tu aimes, et il lui dit les arbres. Bon ben tu seras bûcheron. Et donc il l'envoie faire une école de bûcheronnage du côté de Grenoble. Et là, il y a un premier rapport avec les arbres, il apprend en fait le métier de bûcheron. Finalement, il fera pas bûcheron, il continuera, il fera des études. Et lui, qui était vraiment pas un enfant pour faire des études, il se retrouve à faire un doctorat en géographie. Et plus tard, il deviendra même un prof donc à la fac de Toulouse pour enseigner. Il monte sur le toit, par exemple, pour montrer les paysages et apprendre à lire autrement l'environnement. Et c'est ce qui nous explique en fait dans ce livre qui est très beau, comment par moment il se retire du monde parce qu'il trouve que le monde est très violent. Olivier Garance, je pense que c'est une partie de sa vie en fait qu'il raconte dans ce bouquin, hein, le rapport avec son père et sa mère qui se séparent, et comment dans son père il voit l'évasion, il voit la pêche, il voit la chasse aux isards pour les observer le matin très tôt, les balades en forêt, les cabanes, il voit tout ça en fait. Et puis sa mère qui est à la maison, qui est plus stricte, Et donc, il fuit plutôt sa mère les week-ends pour aller voir son père et puis s'évader dans cette montagne. Et c'est dans cette montagne qu'en fait, il va découvrir une cabane qui est ouverte. Personne, il n'y a pas de clé, elle est ouverte, voilà. Et donc, il trouve ce refuge, il y reste plusieurs jours, et là, il découvre la montagne perdue. Alors, elle n'est pas très très haute, cette cabane, elle est à 1500 mètres d'altitude, mais quand même suffisamment haute pour être comme s'il était un peu perdu et isolé du monde. Et là, en fait, c'est effectivement une introspection. Il va rentrer en phase avec cette cabane, avec ce doux foyer dans lequel il va couper du bois. Et quelque part, il se retrouve face à lui-même, à découvrir des petites choses. Un ruisseau dans lequel il va se laver, il va se baigner, des balades avec son chien, couper du bois, enfin, vraiment revivre en fait de façon extrêmement simple et...
Qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te gêne?
Qu'est-ce qui me gêne? La bière qui coule juste devant mon nez, là.
C'est la rivière. Ah, c'est la rivière, c'est ça, on essaie de faire une ambiance sonore.
Mais là, il y a de la mousse, hein, dans ta rivière.
Elle est pas propre. Ouais, c'est une rivière polluée, quoi.
Ouais, c'est une rivière polluée. Et du coup, en fait, on vit son histoire avec des feedbacks, avec un retour sur son enfance, pourquoi il était, c'était un petit voyou. Sans prétention et qui va devenir quand même ce grand
maître de conférence.
Maître de conférence. Et puis le rapport à sa famille, les gens qui laissent des traces, cette retraite, cette recherche d'amour auprès des femmes finalement qu'il ne trouve pas, ou partiellement, ou de temps en temps, mais finalement qui ne sont pas nécessaires à sa vie. Voilà. Et comment lui vit tout ça. Et donc c'est à la fois très profond, je trouvais. C'est très simple, c'est écrit vraiment très simple. Et par moments, c'est presque de la poésie. Enfin, il dit des choses qui sont assez fondamentales. Et je trouve que ce livre, c'est comme une petite respiration. On a l'impression d'être en altitude, en fait, quand on lit ce livre. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très beau.
C'est sur un seul voyage dans cette cabane où il reste plusieurs, où il revient, il repart.
Il y va assez souvent, comme des retraites, en fait.
D'accord, hein, c'est comme des retraites. Donc, on le voit revenir.
Et des fois, il y va 3 semaines, 4 semaines. Enfin, il y va assez longtemps. Et en fait, il ne sait pas à qui elle appartient. Et un jour, il découvre qu'il y a un berger au-dessus. Il dit. Qui lui fait signe et il comprend que là c'est au berger. Il va même se battre avec un des parents de la famille de ce berger, parce qu'en fait il a osé une fois fermer la cabane à clé parce qu'il avait laissé ses affaires dedans quand il a mis un cadenas, etc. Et là ils ont fracassé la porte
et, oui.
Et c'est ce rapport en fait et cette violence qu'il a à l'intérieur. Donc en même temps il exprime qu'il a une très très grande violence. Hein. Au fond de lui, mais que la montagne l'apaise et que dans cette montagne, en fait, il arrive à être lui-même, il arrive à être à vivre, quoi, tout simplement.
Alors c'est peut-être très bien écrit aussi, c'est fait aider, comme je l'ai dit dans l'introduction, par Delphine Sobaber, qui est journaliste, ancienne journaliste. Elle vient de sortir un premier roman l'an dernier, La fille de la grêle. Elle a été prix Albert Londres. Donc c'est quelqu'un d'un haut niveau littéraire. Ben super, écoute, ça donne envie de le lire. Hein.
Ouais.
Tu veux lire un passage?
Ouais, je vais vous lire juste un tout petit passage qui donne un peu l'idée. Donc
j'ai vu que tout le monde a prévu de lire un passage, c'est bien.
Page 67. Mon père me disait toujours, quand tu passes quelque part, tu ne laisses pas de traces. Il parlait du respect de la nature, sans doute aussi de la condition humaine, mais ça, je ne le savais pas. Construire ma trace, ne pas me calquer sur celle des autres. Mettre du sens dans ce que je fais, parce qu'il est déjà suffisamment dur d'être plus fort que soi avant de penser à être meilleur que les autres. Désormais, je cours pour me sentir libre, m'échapper du monde. Je cours pour la seule sensation, la pluie qui frappe les joues, l'impression de vitesse quand je m'engouffre la nuit dans le tunnel de lumière de ma lampe frontale.
Ouais, très beau. Ouais.
C'est mignon.
C'est mignon.
C'est tout mignon.
Il y a plein de réflexions comme ça, et par moments, il y a vraiment... comme des îlots de poésie, de philosophie. Et j'ai trouvé ça, c'est vraiment sympa, parce qu'il nous amène à son univers, de façon très simple, à vivre des choses avec lui. Il va être dans un ruisseau, là, il déblaye avec une pelle, et puis il trouve une vieille baignoire, il la met dedans, donc il en fait sa baignoire, il n'arrive pas à rentrer dedans. Mais c'est des choses très simples avec son chien. Il fait le feu dans sa cabane où il fait très, très froid. Et puis... En fait, c'est des toutes petites choses. Et à chaque fois, En fait, il élabore une pensée philosophique. Et ça, je trouve que c'est une belle trouvaille. Mmh.
L'iconoclaste, ils ont toute une série comme ça de ce qu'on appelle, qui vient des États-Unis, la nature writing, l'écriture initiée par Henri David Thoreau et Walden.
On m'a dit que ces bouquins sortaient beaucoup actuellement.
Ouais. Ben oui, c'est
très... ça après, donne... après, ça se lit vraiment... En deux soirées, vous l'avez lu, hein. C'est assez court.
J'avais envie de présenter un livre qui n'était pas dans la sélection, que j'ai revu après, donc je dis juste le titre, c'est un best-seller très connu, mais que tout le monde ne connaît pas, qui s'appelle Indian Creek. Je ne sais pas si vous l'avez lu, de Pete Fromm. Donc il est sorti en 93, c'est un jeune de 20 ans qui décide de partir dans l'Idaho pour un job de s'occuper des saumons. Donc il est seul dans une cabane en plein hiver et donc il doit voir que les saumons, ben, les œufs, il n'y a pas de souci, casse la glace, tout ça. Il est seul avec son chien, ça dure tout un hiver et c'est extraordinaire aussi. C'est vraiment, voilà, c'est des grands espaces, seul dans la nature, dans le froid, dans la neige. Voilà.
Une histoire vraie aussi, parce que là, le c'est propos, c'était aussi. Que de l'histoire vraie, là, tout ce
c'est
qu'on
ça. A vu. Pour l'instant, ça allait. On va voir sur la suite, je ne sais pas. Mais je vais te donner la parole d'ailleurs, Valérie, parce qu'on
bien,
va partir au Tibet avec l'autrice Xin Ran, qui a une vie assez mouvementée que je vais pouvoir décrire après.
Mm-hmm. Mais en même temps, est-ce que c'est sa vie qui nous intéresse ou ce sur quoi elle a écrit
mais aujourd'hui ? C'est les deux. Toujours, ce sont les deux. Funérailles célestes, elle a écrit.
C'est ça. Mais toi, tu vas me parler de Xin Ran ou de Funérailles Célestes ? Parce que si tu parles de Funérailles Célestes, j'ai plus rien à dire.
Non, c'est toi qui parles de Funérailles Célestes. D'accord. Moi, je vais parler de Xin Ran.
Bien fait. Oui. Ou tu veux que je parle de Funérailles Célestes avant ?
Non, j'aimerais que tu parles avant moi.
Très bien. Bah alors
à moins que tu préfères que je présente avant.
Mais disons qu'il y a comme un lien, en fait, entre les deux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Xin Ran, sauf erreur de ma part, vu que je n'ai pas trahi sa biographie, a rencontré le personnage de donc Wen, qui qu'on va accompagner dans le Tibet. Donc l'histoire vraie, c'est l'histoire de Wen ou Ven, je ne sais pas comment ça se prononce. Et en fait, elle a rencontré cette jeune femme. Donc Xin Ran, elle est journaliste, elle fait des émissions de radio.
Ça, on y est.
On est d'accord jusque-là. Il coche au fur et à mesure que je parle, ça met une pression de dingue.
Je n'avais pas spécialement le Tibet, moi, mais quelle journaliste qui faisait des émissions
elle
de radio.
Ouais. Elle est en Chine, mais elle rencontre cette femme, donc cette Wen, qui est sur la fin, enfin, qui est une personne très âgée. Et Wen lui raconte donc sa vie, d'un coup, d'un trait, mais ça dure deux jours. Voilà, parce qu'elle lui a quand même raconté 30 ans de vie et Ven est là, elle lui raconte sa vie et Xin Ran, la journaliste, donc une fois la torpeur de cet entretien de deux jours passés, dit mais je dois absolument le mettre sur écrit, je dois absolument l'écrire, sauf qu'elle ne retrouve pas la trace de Wen et elle fait appel à toute la mémoire possible donc pour raconter la vie donc de Wen et qui lui a inspiré le titre Funérailles Célestes.
D'accord, c'est tout le livre la vie de Wen ou...
Oui. Ouais,
d'accord.
En fait, il y a okay. juste un petit, une sorte de préface qui où c'est Xin Ran qui raconte sa rencontre avec cette dame qu'elle croyait tibétaine parce qu'habillée à la tibétaine, les traits tibétains, le visage marqué comme quelqu'un qui a vécu sur les hauts plateaux. Et elle se met à raconter l'histoire. Et donc, on rencontre Wen sur son âge, début d'âge adulte. Et on la suit donc jusqu'à pendant 30 ans. Et c'est... j'ai lu des articles sur ce livre. On dit que c'est une histoire simple. C'est une histoire belle, douce. Enfin, moi, pour moi, c'est une des plus belles histoires d'amour. Roméo et Juliette peuvent se racheter une tenue tout de suite. C'est ce que j'ai lu de plus beau. En fait, de plus romantique, de plus fou. En fait, Wen, elle est jeune, elle est en Chine, elle est pleine d'avenir, elle est en fac de médecine et elle rencontre Kejun, qui est beau, qui sent bon le sable chaud et qui tous les deux se prédestinent à un avenir absolument normal. Et donc ils tombent éperdument amoureux l'un de l'autre et malgré tout ce que la Chine impose, ils ont le droit de se marier l'un l'autre et alors, j'ai pas exactement, je me rappelle pas le nombre parce que j'ai oublié de faire des notes sur cette lecture. Combien de temps après leur rencontre, ils se marient et très vite, lui est envoyé au Tibet, donc c'est la guerre.
9 mois.
Non, parce qu'elle n'a pas eu le temps de polichiner les. Et donc le, il part à la guerre et très vite, donc elle finit son, enfin elle s'installe comme médecin, elle est dermato, donc une bonne condition, et elle l'attend, et elle attend éperdument le retour donc de Cushion, et elle reçoit un jour des officiels qui arrivent et qui disent ben votre époux est mort. Alors elle le connaît depuis peu longtemps, ils sont mariés depuis peu longtemps, forcément elle est très triste. Et un matin elle se lève et elle se dit non, c'est pas possible en fait. S'il est mort, je veux savoir pourquoi, comment, où, dans quelles circonstances. Et elle part, elle quitte tout et elle quitte donc la Chine, on est quand même en 1950. Et elle part, elle abandonne tout et elle part au Tibet avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir quand même pour... on n'est pas en 2020 où on voyage avec un passeport et donc elle part et elle qui avait plutôt une vie entre guillemets confortable va découvrir le Tibet pour essayer de retrouver la trace donc de Cushion. Et découvrir est-ce qu'il est encore en vie, est-ce qu'il est vivant, est-ce que...
Et alors, oui.
Et ça dure 30 ans.
Oui, c'est ce que j'allais dire, ça dure 30 ans.
Et c'est quelque
ans.
Chose de fou, parce que pour arriver à avoir les réponses
c'est
à toutes ces questions...
C'est pas 7 ans plutôt au Tibet ?
Non, là c'est 30 ans au Tibet.
Non, mais il est mort.
Je vais faire un film là, sur 7 ans au Tibet.
Il n'y a pas longtemps.
C'est vrai ?
Ouais.
Je l'ai pas
c'est
vu.
Une belle histoire aussi.
Il n'a pas duré assez longtemps. Mais là, 30 ans, c'est fabuleux parce que le lien avec l'émission de ce soir, donc, qui est quand même à la base normalement des histoires.
Oui, c'est le voyage.
C'est le voyage. Mais là, donc, c'est, ce qu'il y avait de fabuleux, c'est que sous couvert d'une histoire d'amour, parce que moi, c'est ça qui m'a un peu
titillé,
ouais. C'est la découverte du Tibet à travers les yeux de Wen, donc qui est chinoise et qui découvre un pays, qui découvre une altitude et qui découvre un mode de vie qu'elle ignorait totalement, qui découvre en fait finalement l'accueil de ceux qui sont censés être ses ennemis, puisque c'est ça quand même à la base, et comment on peut découvrir des paysages, découvrir des us, des coutumes, tout en ayant une quête, parce que sa quête, c'est quand même de retrouver le pourquoi du comment, ou peut-être lui, que jeune.
Et alors elle le retrouve.
On va dire qu'il veut savoir,
Nico, allez, vas-y.
Au bout de 30 ans, elle apprend vraiment qu'il est décédé, mais ça change rien, j'allais dire, au fond du livre, même si on spoil, parce que c'est beau et c'est au-delà de tout ce qu'on peut, de tout ce qu'on peut attendre d'une relation, parce qu'on se dit, elle est jeune, elle est talentueuse, elle rencontre du monde sur la route, il lui arrive des aventures, absolument incroyable, et il y a des descriptions qui sont super, donc on imagine même qu'elle va devenir tibétaine, qu'elle est accueillie dans un village suite à un accident, on sent qu'elle peut s'intégrer, mais en même temps elle est fondamentalement chinoise, et il y a toujours cette quête de l'amour. Tous les jours elle regarde la photo de Cushion et elle dit mais il rajeunit, c'est incroyable. En fait, elle a cette image que tous les soirs, quand elle le regarde, il devient de plus en plus jeune, alors que voilà, c'est le temps qui passe. Et des descriptions de la nature tibétaine qui sont juste incroyables.
Alors, donc, ça ne doit pas être autobiographique, car déjà, elle est née en 1958 et ton histoire se déroule en 1950.
T'as pas écouté ce qu'elle a dit en début. C'est pas autobiographique, puisque c'est une journaliste qui recueille une information.
Elle pourrait raconter sa vie à travers cette histoire, Pauline,
non, bien sûr. C'est comme si.
Mais elle pourrait faire croire qu'elle reçoit quelqu'un et raconter sa vie.
C'est pas une tricheuse.
Tout à fait. C'est vrai.
Alors, l'histoire de Xinran, alors, j'ai pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre. Par contre, elle a une histoire quand même assez folle. Elle est née en 58, révolution culturelle, et elle et son frère sont enlevés par les gardes rouges à leurs parents, jugés réactionnaires, et donc ils sont envoyés dans un orphelinat réservé aux enfants de chiens à la solde de l'impérialisme. Voilà, comme se nomme l'école, donc tu vois, c'est super gay. Et à partir de 83, la Chine a besoin de personnes pour développer la télévision et la radio capables de diriger des émissions de débats éducatifs, tout en s'assurant que les sujets interdits sont évités. Et donc, on confie à Xiran la production de ces émissions. Donc, elle devient l'animatrice d'une émission de radio, Mots sur la brise nocturne, diffusée entre 22h et minuit. Et en 97, elle part de Chine, elle s'installe en Angleterre. Et c'est là qu'elle se marie, qu'elle a un fils. Et en 2002, un recueil de ses vies de chinoise est publié chez Chateau and Windus, paru aux éditions Piquier sous le titre Chinoise. Donc c'est pas celui-ci. Mm-hmm. Il parle de la souffrance, l'amour, l'espoir de ces femmes. Et elle est connue depuis, ça a été un best-seller international, depuis elle est connue dans le monde entier. C'est quelle maison d'édition celle-ci ?
Chez Piquier. Comme
mais c'est piqué. Mais voilà, elle y est restée.
Mais c'est vraiment... Il n'y a aucun moment dans le livre où on on peut s'imaginer qu'elle puisse être la protagoniste. Enfin, c'est vraiment très clair. Enfin, elle raconte vraiment même elle son image du Tibet, la conversation qu'elle a surpris et comment elle avait honte même de la façon dont elle a accueilli au départ le récit de Wen. L'irrespect qu'elle a eu, le manque de culture qu'elle avait, parce qu'elle disait, si j'avais été prête à la rencontrer, cette Wen, pendant 2 jours, j'aurais su lui poser les bonnes questions, j'aurais su être... Et elle avait honte, un peu comme nous, quand on prépare mal nos chroniques. Et
on ne prépare jamais mal nos chroniques, tu sais.
C'est des chroniques qui sont dures à préparer. Voilà, c'était ça mêlait à la fois le récit de voyage biographique, pas autobiographique, mais un vrai récit. Voilà, une vraie aventure de voyage et une découverte du Tibet très douce, très, très simple et très, très spirituelle. Hein, parce qu'il
bon, à conseiller alors.
Ouais, c'est un vieux livre, hein, parce que c'est pas du tout quelque chose de récent. Je crois qu'il est sorti en 2008, non,
Ludo ? Je ne sais pas.
D'accord, mais on va dire ça à peu près. 2008.
On va dire ça.
Oui, c'est pas mal.
Tu veux nous lire un passage ou pas ? Alors, Pauline, c'était une blague, hein, c'est pas obligé de lire des passages.
Elle s'appelle Blandine.
Blandine, pardon.
C'est pas grave, ça passe.
Pauline, c'est elle présente après, c'est pour ça. Je suis dans ma. Non, d'ailleurs, c'est moi qui présente après. Tiens, je vais te piquer ta place.
Vas-y.
Bim.
J'avais. Ah, ben tiens, voilà. Le moment où elle trouve que son mari rajeunissait. Donc,
quand elle a fini.
Exactement. Sauf que c'est pas Brad Pitt, faut pas plaisanter quand
même. Oui, et Brad Pitt, il arrête pas de revenir ce soir, c'est bizarre.
Ouais, il arrête pas de rajeunir.
C'est bizarre.
Aussi. Bref. Quand elle eut fini de remplir les pages blanches de son livre d'essai, elle se mit à écrire entre les lignes du texte. Quand ses espaces furent comblés, elle écrivit le texte imprimé. Le seul espace qu'elle voulait laisser vierge, c'était l'intérieur de la couverture. Elle réservait cela à Kejin. Quand elle le retrouverait, il écrirait un épilogue à son journal. Les pages débordaient d'annotations sur la solitude, sur l'amour, la volonté de survivre de Wen. Le livre était de plus en plus épais et la photographie de Kejin jaunissait. Son visage avait un air éteint et ridé. Alors, c'est peut-être pas ce passage-là où il rajeunissait, mais c'est parce qu'elle y revient souvent. Mais c'est, voilà, ça décrit bien, en fait, tous les soirs, il y a ce côté où elle lui rend un peu hommage, en fait. Il y a toujours.
C'est beau cette idée de regarder une photographie, de vieillir et de penser que la personne.
Il n'y a même pas d'espoir naïf dans le livre, il n'y a pas d'espoir, mais tout est beau, en fait. Tout est c'est très spirituel, très doux, très. Voilà.
Merci Valérie.
Avec plaisir, je reviendrai.
Oui, tu fais bien. Tiens, alors, on va partir du Tibet pour aller à Pékin, pour aller à Moscou, ou on va plutôt partir de Moscou pour aller à Pékin. Et donc, Valérie, nous prenons pour ce voyage le...
Pékin Express.
Le Transsibérien,
ah, zut,
Moscou-Pékin. Je vous fais passer le livre parce qu'il y a des photographies dedans que vous pouvez aller voir. C'est l'auteur Eric Feil et le photographe Xavier Voirol. C'est une silente absence à la maison d'édition Le Bec en l'air. C'est un livre édité en 2014 pour un voyage qui s'est déroulé en juin 2005. Il a pris plusieurs fois quand même le Transsibérien. Après, il a repris parce que le Transsibérien fait Moscou-Pékin, mais il y a différents bras où on peut aller un peu plus bas en Mongolie, un peu plus loin en Sibérie. Après, donc, il y retourne pour visiter les autres branches. Alors, l'histoire commence en 3 pages sur la description du village-musée de Tchouchenskoyi. Pourquoi ? Quel est ce village, Pauline ?
C'est pas parce que ça commence par Chouchen que Pauline est obligée d'avoir une
Merci,
réponse.
Je ne savais pas comment réagir, bravo.
Voilà. Alors, c'est le village dans lequel Lénine était en exil de 1898 à 1900. C'est pour ça que je t'ai pas demandé, Nico, je savais que tu savais. Alors, il n'est pas sur le tracé du Transsibérien, mais il est pris en exemple par l'auteur, car pour lui, c'est un village qui reste figé dans le temps. Alors, c'est ce qu'il va ressentir finalement dans ce voyage. C'est un temps déréglé, très singulier. Alors, pour lui, le Transsibérien, c'est pas une machine à remonter dans le temps, mais, alors je cite l'auteur, à le déformer, à l'étirer, nous voici dans un temps qui a les propriétés du caoutchouc. Alors, si on part dans ce Transsibérien à la rencontre de contrées rêvées, c'est une expérience sur la notion du temps. Pourquoi ? Il a constante vitesse à 70 km/h ce train. Pendant une semaine, il roule à 70 km/h. Les arrêts en gare, c'est 3 à 5 minutes. Juste le temps ou d'ouvrir sa vitre pour acheter à manger aux gens de passage ou pour sortir, marcher 2 minutes, remonter. Donc c'est vraiment un train, un voyage qui est très très particulier. Le paysage par identique d'un jour sur l'autre. Tout change pourtant, mais c'est presque imperceptible, c'est-à-dire que voilà, les visages s'asiatisent au fur et à mesure, les fleuves commencent à s'élargir, la plaine se couvre de bosses, la végétation change, et c'est très très lent, comme la vitesse du train, quoi, finalement. Alors lui, comme toutes les personnes qui sont dans ce train, sont maternées par le personnel, livrées à l'inaction, à la solitude. Du coup, c'est un peu comme ma cabane présentée par Nico, parce que l'auteur traverse des états intérieurs auxquels il est peu souvent confronté, l'ennui, l'introspection, la confrontation à ses obsessions. C'est vraiment un voyage pour lui qui a été surprenant. Donc ils ont tous les deux, avec le photographe, embarqué dans ce train mythique pour croiser leurs impressions sur cette traversée aux temporalités multiples. Petit bémol, les photos, j'ai pas été vraiment emballé par les photos.
C'est ce que j'allais dire, il faudrait qu'il nettoie son objectif.
C'est dommage.
Mais franchement, c'est pas très beau, c'est pas cadré.
Peut-être voilà. C'est fait à travers la fenêtre du train. Alors, dégueulasse.
Toutes les premières photos, c'est pour montrer ce qu'il voit de la fenêtre.
Mais en même temps, elles sont pas belles.
Mais en même temps, c'est pas beau.
Ouais. Mais est-ce que c'est beau? Est-ce que quand tu fais ce long trajet, est-ce que tu as un extase?
Si, c'est pour montrer que tu te fais chier, effectivement, les images...
C'est pas le but, parce que c'est très très bien écrit, c'est très poétique. Alors, j'ai adoré l'écriture.
Il y a très peu d'écriture, quand même.
Ça va. Hein.
Non, mais c'est
qu'est-ce que tu es en train d'insinuer, Valérie, que je choisis toujours les livres où il n'y a pas beaucoup d'écriture?
150 pages.
Il y a beaucoup de photos.
Il y a 100 pages de photos.
Non, c'est pas sympa. Alors justement, chers auditeurs, alors on commence.
Les auditrices, par contre.
Et chères auditrices. On commence par l'histoire du Transsibérien, donc il raconte un peu l'histoire qui a été achevée en 1907. Alors tiens, pour votre culture, certains wagons étaient exposés à l'exposition universelle de Paris en 1958. En 1900. Tout court, il y en a. Ouais, tout court, 1900, il y en a une première. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient mis 2-3 wagons, ils avaient mis un panorama sur les vitres qui faisait bouger pour faire croire qu'on était dans le Transsibérien.
Ouais. À la bonne vitesse,
je trouvais ça génial.
Ils étaient modernes,
en 1900.
Déjà.
Ouais.
C'est génial, comme un travelling avec des petits esclaves et des poulbots qui faisaient dépasser les paysages.
Exactement. Donc, il revient sur l'histoire de ce Transsibérien où il y a beaucoup de Russes qui sont aussi partis chercher une vie meilleure. À l'époque où la Sibérie n'était pas que bagne. Donc il y en a beaucoup qui prenaient ce train pour essayer de vivre mieux ailleurs. À mon avis, c'est pas sûr qu'ils aient trouvé perdu dans la Sibérie quelque chose qui soit plus intéressant que vers l'ouest de la Russie.
J'ai pas écouté, mais pourquoi ils ont décidé de faire ce... Peut-être tu l'as dit, mais j'écoutais pas.
Je ne l'ai pas dit, mais pour lier la Chine à Moscou.
Ça, je sais pourquoi est-ce qu'ils ont fait le train. Non, mais l'auteur, qu'est-ce qu'à un moment donné de sa
rien,
vie,
il a dit je vais prendre le Transsibérien et il en parle.
Il a eu deux billets gratuits.
Voilà.
Non, mais tu vois, il aurait pu prendre le Sevenol, mais il a pris le Transsibérien. Des fois, il peut y avoir
le Trans-Sevenol, il a pris.
Voilà, il aurait pu y avoir quelque chose qui est fait que.
Et donc là, ce qui change, c'est qu'il n'y a plus de troisième classe après 70 ans de lutte des classes, hein, vous comprenez. Donc il va nous parler des approvisionnements sur les quais de gare, ce que je vous disais tout à l'heure. Il va nous parler, dire tout ce que cette ville qui renaît au printemps, où les jeunes aiment faire la fête, où ils se disent « ça y est, on va être presque en Asie ». En fait, c'est super européanisé. Il va parler du lac de Baïkal, bien entendu, de Ulan-Ud, dernier marchepied de la Russie avant la Mongolie. Ulan-Bator, la capitale la plus froide du monde, la capitale de la Mongolie. Il va nous indiquer, par exemple, que le Kremlin avait... le Kremlin expliquait que l'Ouest, c'était la tête de la Russie, et l'Est, les pieds. Et pour les rapprocher, il y a 9 fuseaux horaires. Il en a enlevé 2. Il n'y en avait plus que 7. Et donc, il a enlevé 2 heures à l'Est de la Russie, à la Sibérie. Et donc, en fait, ils n'ont plus de soleil. Parce que du coup, ils ont perdu 2 heures. Donc, ils ont fait des manifestations en disant « Non, mais c'est pas possible. » Et le Kremlin leur a expliqué « Oui, mais bon, là, il y a trop de décalage. Quand on travaille, ça marche pas. On se lève quand vous couchez. Donc, on enlève 2 heures. C'est comme ça. » Et depuis ce moment-là, alors, je sais pas de quand ça date, quel est le personnage du Kremlin qui a décidé ça, mais hop, on a enlevé 2 fuseaux horaires. Donc, on apprend plein de choses. C'est intéressant. Et surtout, c'est très bien écrit. Je le conseille parce que voilà, on est vraiment avec ce personnage. On apprend des choses. C'est un documentaire.
Faire pareil en France.
Après,
on gagnerait du temps pour les retraites, non?
C'est ça.
On serait plus vite à leur
retraite.
On aurait moins de trimestres.
Ouais, moi, les photos, je les trouve pas belles, mais par contre, je les trouve.
Elles sont à propos, mais.
Ouais, elles manquent d'une légende, mais elles sont assez chouettes à regarder. Là, il y en a une sur un quai où.
Avec
je suppose que c'est un moment du ravitaillement, là. Il y en a un qui est en train de s'acheter un pantalon derrière. Il y a toutes les boutiques. Enfin, il y en a qui sont.
Alors, j'ai
étonnante.
Pas, j'ai pas d'infos sur Xavier Voirol. Par contre, Terry Faye, l'écrivain, est né à Limoges. Tiens, quelle drôle d'idée. Hein. il est lauréat notamment du Grand Prix du roman de l'Académie française en 2010. Voilà. Je vais vous lire juste un petit passage. Je vois le trajet Moscou-Pékin avant tout comme un voyage à l'intérieur de soi, parce que vous n'êtes plus le grand ordonnateur de vos journées, parce que vous ne pouvez plus les saucissonner en activité, en rendez-vous, elles vous paraissent sans fin. L'immensité géographique rend l'homme à l'immensité du temps. Albert Thomas le résumait déjà en 1905 dans la relation de son voyage ferroviaire de Moscou à Tomsk. Tranquille dame, dans le bercement indolent du wagon, nous avons passé là des heures délicieuses de rêverie. Ce n'était plus le voyage haletant à travers les villes, les monuments qu'il fallait voir, les souvenirs qui se réveillaient. Nous nous abandonnions tout entier à l'influence douce de la puissance de la plaine. L'immensité du temps est comme surlignée par la lenteur du train, et cette lenteur engendre un ennui qu'exacerbe la monotonie du paysage et la raréfaction des signes de vie. Voilà, c'est très lent aussi l'écriture, on se rend compte. Voilà, il a vraiment transposé ce qu'il a vécu au style littéraire, et c'est très intéressant. Je vous le conseille, c'est une histoire vraie, madame Valérie Trémoulière.
Eh bien, pour l'instant, nous sommes sur un sans faute dans le choix.
Presque. Mais non, Xiron, on ne sait pas. Hein.
Mais c'est une histoire vraie, arrête
de... On ne sait pas si elle existait ou when.
Le débat va durer longtemps, je pense.
On cherchera pendant la pause musicale.
Mais non, mais elle ne l'a pas retrouvée, mais la honte qu'elle a eue de l'entre...
Par contre, Valérie, une autre histoire vraie,
oui.
Celle de l'ethnologue, anthropologue française Natasja Martin.
Oui, mais justement.
Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé en 2015 près du volcan de Kamtchatka pour qu'elle vienne nous le raconter? Donc, croire aux fauves, eh bien, c'est Pauline qui va nous le dire.
Eh bien, la pauvre Nastasia, elle s'est fait attaquer par un ours. Et pas une petite attaque, hein. Il lui a quand même mangé la moitié du visage, donc...
Non, c'est un ours, hein, c'est pas...
Voilà, un ours. Et c'est un ours... alors, c'est... C'est un livre...
Nico est choqué. Attends.
Ah bah tu survis à ça ?
Eh bien oui, eh oui, voilà. Bah c'est toute cette histoire-là. C'est l'histoire de... Tu survis à un ours qui te mange le visage. Voilà. C'est une histoire dingue. Après, alors tu parlais, Valérie, de tout à l'heure, de la non-préparation des chroniques. Eh bien là, j'aurais aimé être préparée plus... À la lecture de mon livre, parce que je pense que je suis passée complètement à un côté. J'ai trouvé que c'était une lecture très difficile, parce que c'est une introspection et une réflexion sur le lien entre l'homme, l'animal, la nature. C'est une anthropologue, mais là, elle est au-delà de l'humain, et elle est allée sur toutes les âmes, voilà, parce que elle est sur l'animisme à fond, c'est-à-dire donc que cette anthropologue, donc elle est dans le Kamtchatka, elle vit avec un peuple qui s'appelle les Évennes, depuis 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça, et l'ours est présent en elle déjà depuis des années, voilà, elle le raconte, les gens autour d'elle le ressentent, ils l'appellent, je me rappelle plus du terme, Medja, je crois.
Celle qui vit avec un ours.
Mais dis donc, ouais. Incroyable.
Et qui n'a pas eu peur.
Alors si, elle a eu un petit peu peur quand même.
L'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours et qui n'a pas eu peur.
Et voilà, donc un jour elle rencontre cet ours, elle le regarde dans les yeux, elle sait qu'elle ne doit pas le regarder, qu'elle doit lui dire « je me retourne et je pars », mais elle le regarde dans les yeux, et donc ils s'attaquent l'un l'autre, en fait. Mm-hmm. Voilà, nous on le voit comme l'ours qui attaque Natasja. Mais non, elle, quand elle le raconte, ils s'attaquent l'un l'autre, parce que en fait c'est une collision, ouais, entre elle et l'ours, et donc c'est toute une réflexion sur cette rencontre. Je dis collision parce que vraiment, on a ce sentiment qu'ils se sont rentrés dedans et qu'il y a eu un mélange, tout son univers à elle s'est métamorphosé, et elle va revenir énormément là-dessus. Et c'est là où je manquais, je pense, de culture. J'aurais dû lire un peu sur l'animisme, parce que moi, j'ai une définition de l'animisme, tout a une âme, et puis ça s'arrête là. J'aurais dû aller plus loin. Quand j'ai senti que la lecture allait être difficile, j'aurais dû approfondir un peu plus, parce que c'est au-delà de juste tout a une âme. Bien au-delà. Quand ils en parlent, je l'ai ressenti, mais avec un manque. Et donc voilà, c'est Donc il y a toute cette introspection, elle va revenir sur dans le lieu où elle a été attaquée, elle va revenir revoir le peuple, le clan avec lequel elle a vécu. Elle va aussi retourner en France, évidemment. Alors, elle se fait soigner dans un premier temps. Moi, c'est des passages qui m'ont plus marqué parce qu'ils sont plus simples à appréhender, en fait. Mais elle va donc en Russie se faire réparer la mâchoire. Et quand elle arrive en France, à Paris, ils lui disent « Bon, ben, vous êtes fait réparer la mâchoire en Russie, on va recommencer, on va tout reprendre à zéro parce qu'ils vous ont fait un truc dégueulasse. » T'as l'impression d'être en pleine guerre froide, on est en 2005. Hein.
Ouais, surtout que voilà, quand elle arrive à l'hôpital, y a des services secrets russes qui se demandent « Est-ce que c'est pas une espion ? Qu'est-ce voilà. qu'elle fait là ?» Donc ils vont attendre, ils vont la piquer pour lui faire mal, ils vont la questionner. Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Bah, je suis entre boulogues, je vais voir les ours. Oui, oui.
Mais voilà, tous ces passages factuels, ils sont très courts en fait.
C'est plus d'introspection derrière.
C'est une énorme introspection, une énorme réflexion sur, dans son cas, l'ours et l'ours en elle. Enfin, et c'est très violent comme histoire.
Et elle est toute seule à vivre ça, retourner sur les lieux, tout ça.
Alors, elle a sa mère qui l'accompagne. Elle a Daria, une femme qui l'a beaucoup accueillie dans le Kamtchatka, une évène qui a un petit côté très sage, mais qui va jamais au bout des choses. On a l'impression que cette Daria, elle sait. C'est bête à dire, mais elle sait ce que c'était cette rencontre avec l'ours, mais qu'elle refuse de le dire à Anastasia. Enfin, c'est très particulier et je m'en veux d'être passée à côté parce que je pense que c'est un texte qui peut...
Derrière.
Oui, il y a du chamanisme.
D'accord.
Elle revient sur d'anciens voyages aussi. Alors, elle a été, je crois, dans le Yukon, elle a été en Alaska. Enfin, elle revient sur d'autres choses. Elle revient sur beaucoup de mythes aussi. Et elle va pas très loin parce qu'elle suppose, j'imagine, qu'on a la référence. Donc, à chaque fois, je m'interrompais dans ma lecture pour faire une recherche. Du coup, voilà, ouais, ça a été une lecture compliquée. Et j'aurais aimé être préparée pour pouvoir en profiter. Mais
elle s'est sauvée grâce à un piolet. Elle avait un piolet pour monter le volcan. Et
elle a attaqué l'ours avec son piolet.
Après avoir été défigurée, donc compliqué.
Mais c'est fou parce que quand t'en parles, t'as l'impression que c'est elle l'ours.
Enfin, oui, mais c'est ça.
C'était un peu elle contre elle et comme si c'était inéluctable ce qui lui est arrivé, que c'était... tu savais que ça allait
c'est tout à fait ça et elle
fait un gros bisou
l'ours aussi pour l'ours aussi c'était quelque chose c'était une rencontre c'est pas une rencontre que de elle avec l'ours mais de l'ours avec elle aussi
c'est que tu le décris t'as l'impression que c'était d'égal à égal finalement
exactement c'est tout à fait ça
et toi t'as plus ce bouquin silence
non
Ah, ça faisait longtemps que
je l'ai trouvé très difficile.
Voilà.
Non, je l'ai trouvé trop difficile pour moi.
Trop compliqué à lire rentrer dedans, quoi.
Ouais. Après, c'est très bien écrit. Il y a plein de passages dont je me rappellerai. C'est pour ça que je suis hésitante parce qu'il y a quand même des passages qui m'ont sacrément marqué, à la fois dans les passages factuels que je disais, parce que cet épisode à la Salpêtrière qui est extra, où vraiment... puis en plus, il se repasse la même chose après quand elle va à Grenoble se refaire soigner, et qu'à Grenoble, ils lui disent « Oh là là, à Paris, c'est l'usine, allez, on va tout recommencer encore !»
Oh là là, mais quelle horreur.
C'est quelque chose, la reconstruction du visage.
Oui. Puis alors, la première chose qu'ils lui disent, je sais plus... Ah oui, le visage, c'est toute l'identité d'une personne. Elle arrive à l'hôpital, il lui dit ça. Ouais, là, tu te dis, attends,
mais je suis un ours.
Le lambeau de Philippe Lançon, là, qui décrit toute la reconstruction de la mâchoire et tout. Et c'est terrible.
Ouais. Alors, c'est dingue.
Ça finit avec un indigène qui regarde Anastasia Martin, un orcier incarné, qui lui dit, mais tu écris sur l'ours, sur toi ou sur nous ?
Exact, voilà.
Et elle dit, les trois, mon capitaine.
Ouais.
Et le verdict de l'indigène, il lui dit, tu devrais l'appeler guerre et paix.
Oh, c'est rigolo.
Ouais.
Mais moi, ça me fait penser à ce mythe là dans le Wyoming de cette tour où les enfants étaient en train de jouer, ils sont attaqués par un ours et la terre s'est levée en fait pour les protéger de l'ours. Et l'ours a griffé la tour pour essayer d'attraper ses enfants. Mais comme un des enfants était porté par l'esprit de l'ours, justement, l'ours, l'animal n'a pas pu faire de mal à l'enfant totem. Tu vois, c'est un peu
Mais l'ours a quelque chose dans
les mythes, dans les légendes. Ouais. Et ça fait très, dans le chamanisme. Bon, dans bolon, tout bolon, ça, bolon, ouais. Bolon,
Je vais faire celui-là, moi.
Allez, avant de perdre Nico,
nous sommes.
On va faire une pause musicale.
Alors, tu m'as fait trouver un passage et, et je peux même pas le lire.
Mais aussi, Pauline.
Regarde, elle va se griffer, là.
Allez. Alors, pas d'opération. Hein, tu...
Non, non, non.
J'aime pas ça.
Petite réflexion.
Alors, l'ours se jette sur elle et la bouffe. Ouais, c'était tout.
Non, mais ça faisait deux pages, donc. On meuble parce qu'elle est en train de chercher sa page.
Oui, oui. Nastia, tu m'écoutes, je t'écoute. Elle parle avec Daria, la fameuse femme. Il ne faut pas le prendre mal. Il ne faut surtout pas le prendre pour toi. Valyrka, qui a peur d'elle, en fait, depuis qu'elle est revenue chez les Évennes, il est comme plein d'autres, il a peur. Pourquoi, je demande? Parce que les personnes marquées par l'ours, comme toi, ce sont les seules qui sont entrées en contact direct avec lui. Et c'est une proximité qui vient d'avant, qui fait que ça s'est passé et que ça a été possible. Je suis au courant, je dis. Et alors, qu'est-ce que ça change à sa vie à lui? C'est ce que je t'explique. Il a peur. Chez nous, on pense que les Mietka, il faut les éviter et surtout ne pas toucher à leurs affaires. Voilà.
C'est trop bien.
Ah ouais,
on va s'arrêter. on va s'arrêter sur cette critique. C'est trop bien.
Oui, mais écoute, parfois t'as pas le vocabulaire.
Écoute, mais c'est comme ça. Ouais. Allez, on fait une pause musicale et ce sera un indice pour la chanson qu'on va retrouver après. Ciao.
Non, c'était pas ça.
Non, c'était pas ça. Vas-y, chante. J'ai un problème de manette. Allez, on est revenu sur cette émission. Vous avez reconnu, bien sûr, Eddie Vedder, le chanteur de Pearl Jam qu'on adore sur notre antenne. Pourquoi ? Parce que c'est tiré de la BO d'un film qui est tiré d'un livre de John Krakauer, Voyage au bout de la solitude, 1996, dont Blondine va nous parler.
Alors j'avoue, c'est un livre que j'ai lu il y a 10 ans, plus de 10 ans, donc faudra être indulgent avec moi.
On l'a oublié nous aussi.
Donc. Un peu. Hein.
Mais on n'est pas indulgent nous.
Non, c'est ça.
Non, on cherche le haut. Ouais.
En revanche, il m'a beaucoup marqué pas parce que il était plein d'émotions, mais parce que c'était une enquête journalistique qui complète bien finalement le film de Sean Penn et moi ça m'a beaucoup apporté par rapport à ça.
Voilà, Into the Wild pour ceux qui n'avaient pas reconnu la chanson.
Donc, ça relate l'histoire de Chris McAndes, qui a 22 ans et qui, à la fin de ses études universitaires, décide de tout quitter du jour au lendemain. Donc, il fait don de sa bourse universitaire pour à des associations. Et sans prévenir ses parents et sa sœur, dont pourtant il était proche, part faire un périple aux États-Unis pour aller vivre seul en Alaska. Il se base beaucoup sur les histoires de Jack London et particulièrement l'appel de la forêt. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est pas son arrivée en Alaska, mais c'est tout son parcours aux États-Unis, où finalement, il va faire des belles rencontres qui seront bien relatées dans le livre, plus que finalement dans le film. Il va passer, alors il part d'Atlanta, il passe par le Nevada, Los Angeles, il va faire des petits boulots, rencontrer des gens. Et moi, ça m'a beaucoup questionnée parce que c'est quelqu'un qui se marginalise du jour au lendemain. Et au final, eh ben, il rencontre plein de monde et tous ceux qui l'ont rencontré, donc dans les enquêtes journalistiques de l'auteur, disent que c'est quelqu'un de très sociable, de très intelligent, voilà. Alors qu'on pourrait penser que, ben, il a pété un plomb et qu'il a tout lâché comme ça, mais pas du tout. Et il réfléchit sur qu'est-ce qu'il va faire en Alaska. Il va interroger des gens qui sont plus, qui connaissent mieux effectivement la vie dans la nature que lui, ce qu'il a vécu, parce que finalement il a rien vécu, il est tout jeune. Et ben, il arrive en Alaska, il trouve un bus abandonné qui va squatter. Et dans ce bus, il va beaucoup écrire sur ses auteurs, sur Tolstoï, sur Jack London, qui revient beaucoup. Et finalement, on voit qu'il y a quand même une idée de la transmission. Alors qu'il est seul, finalement, dans ce bus, on voit déjà qu'il pense à transmettre un peu son ressenti et ce qu'il vit. Et au final, il écrit une phrase, moi, qui m'a vraiment touchée, qui me touche encore aujourd'hui. C'est le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, que l'on comprend.
Alors qu'il est seul, finalement.
Alors qu'il est seul.
Ça, ouais. Ouais.
Et on voit qu'il est bien mal préparé au final. Voilà, moi, ce qui m'a vraiment plu, au final, c'est tout ce voyage aux États-Unis qui, même au niveau de la nature, est presque plus riche que ce qu'il vit en Alaska. Parce que il va descendre des rapides, il va aller travailler au Nevada, donc il raconte les paysages du Nevada qui sont immenses. Enfin,
ouais, il fait plein de petits travaux au fur et à mesure de sa pérégrination, un peu à la Bidnick, à la Jack Kerouac et tous ces auteurs-là. Il a un petit livret sur les plantes comestibles ou non par rapport à l'Alaska. D'ailleurs, il est mort empoisonné parce qu'il a mangé une mauvaise plante. Il avait une blessure.
Alors, m'a interdit de spoiler. Je me suis engueulée parce que je risquais de spoiler. Ça va que ça soit ça toi. Je suis contente que tu fasses. Voilà.
Alors, sur DB, alors il y a une histoire qui est intéressante, c'est que sa sœur, cet homme, à ce Chris, a sorti un livre 20 ans après pour raconter l'enfance. Et en fait, ils ont eu, vu que c'est sa sœur, un père ultra violent. Et il a très très mal vécu toute sa jeunesse jusqu'à ce qu'il parte à l'université. Et en fait, elle expliquait aussi que son appel à la liberté, c'était aussi pour fuir,
ce père
ultra violent qu'on ne connaît pas par le livre ou par le film.
Mais il raconte, effectivement, qu'il a déjà eu un premier divorce avec une famille qu'il a abandonnée. Et effectivement, peu de temps avant son départ, il apprend cette histoire-là. Et je pense effectivement que
ça doit jouer dans son envie de liberté. Ce bus qui est devenu un lieu de villégiature. Oui. Je sais pas s'ils l'ont pas interdit il y a pas longtemps en disant c'est quand même dangereux, n'y allez pas n'importe quand, parce que tout le monde vient se prendre en photo.
Bus qui était à 30 km de lieu d'habitation. C'est ça qui est assez terrible quand même.
Sur les dernières pages du livre, ça rend dingue. On a envie de l'amener, de dire mais non, mais regarde, là c'est terrible.
Là. Ouais. Et ce que j'ai aimé moi avec. Alors j'avoue, c'est assez rare d'ailleurs, j'ai préféré le film au livre.
Le film est bien.
Parce que le livre, en fait, c'est vraiment une enquête journalistique et elle met peu d'empathie, peu d'émotion.
Il y a des à côté, si je me souviens bien. Il y a plein d'histoires parallèles aussi, d'autres survivants.
Et parfois, c'est un méli-mélo parce que c'est pas dans l'ordre. On a du mal à s'y retrouver. Mais moi, j'ai trouvé que c'était plus réel que le film. Parce que le film, on se concentre beaucoup sur les paysages. Alors que le livre, on se concentre plus sur ses relations humaines. Et du coup, j'ai trouvé ça plus riche. Et voilà, donc ça se complète en fait. Moi, ça m'a vraiment complété le film que j'adore. Et je pense que ça peut aller l'un avec l'autre. Mmh.
Voilà, et John Krakauer, c'est un alpiniste américain extrêmement connu et donc écrivain aussi, qui écrit pour Outside, un magazine d'alpinistes qui vit à Seattle. Il a écrit aussi pour National Geographic, Rolling Stone, voilà, sur plusieurs livres. Il a été connu par Tragédie à l'Everest. C'est une tragédie qu'il a vécue avec 8 autres alpinistes qui ont perdu la vie. Mmh. Et donc là, d'ailleurs, on le questionne parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ses dires sur ce livre-là. Je vais pas te demander si, je te demande de lire un passage.
Oui, je veux bien.
Ouais. À tout prévu.
Oui, parfaite.
Ouais. Enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, un peu au dernier moment, mais
c'est pas grave.
Il y a tant de gens qui ne sont pas heureux et qui, pourtant, ne prendront pas l'initiative de changer leur situation parce qu'ils sont conditionnés à vivre dans la sécurité, le conformisme et le conservatisme. Toute chose qui semble apporter la paix de l'esprit, mais rien n'est plus nuisible à l'esprit aventureux d'un homme qu'un avenir assuré. Le noyau central de l'esprit vivant d'un homme, c'est sa passion pour l'aventure. La joie de vivre vient de nos expériences nouvelles, et donc il n'y a pas de plus grande joie qu'un horizon éternellement changeant, qu'un soleil chaque jour nouveau et différent. Et pour citer Aurel San, l'important, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
C'est la quête. Il ne parlait pas de messe d'ailleurs. Merci Blandine pour ce passage.
Je comprenais pas pourquoi il allait récupérer du fric dans une église.
Non, c'est ça. Merci beaucoup Nico. Bravo. On va parler d'arbres un peu avec Alexis Jenny parmi les arbres. C'est un essai de vie commune qui date de 2021 pour cet écrivain français né lui en 1963 et qui a eu le prix Goncourt pour son premier roman, L'art français de la guerre. Tiens, bim, et premier roman, hein, il avait rien sorti avant que ça soit nouvelle ou quoi. Bim.
Oui, un professeur agrégé de sciences naturelles. Donc en fait, c'est un essai, mais qui pour moi n'est pas vraiment bien réussi quand on a lu La vie secrète des arbres de Peter Vollenbein. Voilà. Bon, moi j'ai lu, j'en ai plein d'autres. J'ai eu aussi.
L'homme qui est devenu biche.
Ouais, ça, alors celui-là est excellent aussi.
Il était dans la sélection, mais je l'avais enlevé parce que je savais qu'il t'avait trop marqué. Et je me suis dit, on va repartir. Pour...
Non, je pense à une autre personne qui a écrit.
Sur les arbres ? Un roman ?
Non, c'est pas un roman.
Une chanson.
C'est un brainstorming.
Le sol pleureur rigole de Carlos.
L'encyclopédie botanique et poétique de Francis Allais. Voilà, Francis Allais, qui est l'éminent spécialiste mondial de. C'est lui qui a inventé, par exemple, les jardins verticaux qu'on met sur les immeubles.
Sur les immeubles,
sur les constructions, tout ça, c'est lui qui a inventé ça.
D'accord.
Et qui a vécu plus... Enfin, c'est quelqu'un qui a 80 ans et qui a vécu plus de temps sur la canopée que sur Terre. C'est comme ça qu'on le décrit. Et donc, quand on lit ce genre de bouquin, quand on lit derrière, ça fait un peu pauvre, en fait. Ça fait un peu pauvre. En même temps, c'est intéressant parce qu'on apprend plein de choses. Donc, il fait ces références-là. C'est aussi comme un voyage... de découvrir des êtres qui... Enfin, il élabore un concept qui est intéressant. Il dit, mais si finalement, c'était des individus. Bon, Francis Allais en parle aussi en disant, par exemple, que la Terre, c'est une boule, c'est un crâne, et les cheveux seraient les arbres.
On est des poux, alors.
Oui, on est des
complètement.
Pas super, ça. Même pas trop, moi.
Et qu'en fait, à l'intérieur, toutes ces ramifications font notre intelligence, quoi. Et l'intelligence de la Terre, donc la pensée unique, tout ça. Alors lui, il va pas jusque-là, mais dans son idée, ça reste des individus qu'on vit à côté, qu'en fait, on n'est pas... on aime bien faire de l'anthropomorphisme, mais il faudrait plutôt faire... considérer qu'on est plutôt des alliés des arbres et que les arbres, en fait, on vit un peu à leurs dépens, en fait, hein, et qu'on ce serait pas le contraire, quoi. Voilà. Et quand on pense à la tête de Francis Allais, tout ça, en fait, ce qui vit sur Terre, ce sont les arbres, quoi. En fait, nous, on est vraiment, on n'existe pas. Parce que la durée de vie, la temporalité, c'est entre 150 et 1000, 10 000, 15 000, 20 000 ans, quoi. Ils découvrent des arbres dans la forêt, ils ont 16 000 à 17 000 ans, donc nous, on est peau de balle là-dedans.
Nous survivrons quoi qu'il arrive.
Voilà, c'est ça. Mais c'est aussi ce qui fait l'essence même de la Terre, c'est pas nous. Voilà. Donc il remet, alors ça c'est intéressant, cette idée-là. Après, J'ai trouvé assez technique le bouquin. C'est pas vraiment un roman. Il parle de lui. Il y a tout un tas de passages autour de ses propres histoires, son propre vécu, notamment comment quand il est tout petit, il entre à l'intérieur d'un arbre. Il vit à l'intérieur de cet arbre et comme si l'arbre se refermait sur lui. Mais en fait, quand il décrit l'arbre, c'est purulent, ça pue, c'est ragoûtant le truc. Et du coup, on se dit, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il fait ça, quoi? Donc voilà, j'ai pas hyper accroché. C'est intéressant d'apprendre plein de choses, mais voilà, c'est pas exceptionnel, quoi.
C'est bien.
C'est une collection, Le Monde Sauvage, et les livres sont magnifiques, les couvertures sont magnifiques, mais c'est souvent des petites histoires, des petites nouvelles qui sont un peu décalées, qui sont entre la réalité, la fiction.
C'est un essai de vie commune. Ouais. Alors déjà, quand tu lis le thème, un essai de vie commune...
Parmi les arbres. Mais en même temps, il a peut-être raison, parce que tu sais, quand tu prends les hindous qui vont dans les arbres, qui ça fait très, très poétique et très spirituel, mais peut-être qu'un arbre à l'intérieur, avec l'humidité, le humus, tout ça, peut-être ça pue vraiment.
Mais je pense que ça coince. Ça va être hyper agréable. Mais je veux dire, à ce moment-là, tu prends pas ça comme image, quoi. Tu vois, oui. Tu dis au mec, prends-en une autre, quoi. T'es sur une branche, tu vois. Un truc qui sent bon, quoi. Un tilleul, quoi. Un fleur, quoi.
Ça apporte encore une autre vision, quoi. La vision, on n'est pas dans le.
Non, mais là, c'est un scientifique. Du coup, il y a des descriptions, je pense, qui sont vraiment assez terre à terre. C'est naturel.
Bon, mais Nico, tu ne nous liras pas de passage. Voilà. C'est comme ça, t'es puni.
Ah merde.
Tu en avais prévu ? Non.
Non,
mais tu n'avais pas prévu.
Non, j'ai pas
prévu. Non, mais écoute, c'est comme ça. Y a des arbres qui sentent, hein, par exemple l'opium, qui sent beaucoup.
Alors, justement.
Hein ? Justement.
Justement, parlant d'opium.
Tu voulais parler d'opium ?
Pas du tout.
Oh, la coïncidence.
Non, c'est que, en fait, tout à l'heure, on était au Tibet et je me suis dit, tiens, si on revenait dans la région. Et j'avais très, très peur quand je t'ai dit que j'allais parler de Charles Duchossois. Je me suis dit, oh là là, bon sang, si Ludo travaille comme il faut et qu'il fait sa bio, je suis dans la panade, vu que je vais raconter la vie de Charles Duchossois. Ah. Voilà, et comme t'as...
Oui, comme tu me l'as dit il y a à peu près 47 minutes, je n'ai pas fait sa bio, mais je l'ai lu quand même parce que ça m'a intéressé de ne pas connaître ce personnage.
C'est incroyable. Cet homme est juste incroyable. Donc Charles Duchossois, c'est son autobiographie. Hein.
C'est le seul bouquin qu'il a écrit d'ailleurs, non ?
De toute façon, il est décédé après, donc voilà. Il a écrit donc Flash. Qui en fait
ou le grand voyage.
Ou le grand voyage, voilà. Charles Duchossois, il est né donc pendant la guerre, il était alors je j'ai pas exactement le
Alors en 1940 dans le Loiret, il est mort en 1991 à Paris et il reçoit 4 mois et 8 jours.
Ce type.
Je peux le dire ça ?
Un obus ?
Non, ouais. À 4 mois et 8 jours, il reçoit un éclat d'obus dans l'œil qui le laissera borgne.
Alors, c'est fou parce
mois,
que...
mais qu'est-ce qu'il foutait
en 1940, en fait. Il y avait la guerre.
Ouais, d'accord, mais quand t'as 4 mois, t'es encore à...
Il a pris un obus.
Tu rampes ou quoi?
C'est pas quand même te prendre un éclat.
J'avoue.
Tu ne rampes pas.
C'est bizarre, c'est sa mère qui a balancé l'obus.
Non.
C'est laisse pas médire comme ça.
Mais non, mais tu ne balades pas avec une poussette à 4 mois dans un champ d'obus.
Ça peut tomber sur sa maison. Demande aux Ukrainiens si... Voyons.
Non, ça ne touche que les adultes.
Ouais.
La guerre, parce que c'est mal. Et non, mais en fait, ça paraît... moi, j'ai fait un peu comme toi, Ludo. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on s'attache au fait qu'il ait commencé sa vie avec ce drame, qui est un drame, certes. Mais tu te dis, bon, il a perdu un œil, certes, mais sa vie continue. Mais en fait, ça a eu une conséquence importante. C'est un jeune homme charmant. Hein, je ne sais pas si tu avais regardé des photos, Ludo.
Il est charmant,
il était beau,
oui.
Tout plein, mais avec un œil fermé. Et en fait, ça a eu une incidence parce que ça a été le déclic. Le fait qu'il ait un œil non-voyant, enfin un œil fermé, en fait, il était en permanence comme s'il faisait un clin d'œil, mais sans rouvrir. Le jour où il a passé son permis de conduire, il a fait un sans-faute, en fait. Il a bien répondu, il était poli, courtois, il conduisait bien, il a fait un créneau, lui. Il n'a pas perdu de points, enfin, tout s'est bien passé. Et il n'a pas eu son permis. L'inspecteur lui a dit, ben non, je ne vous donne pas l'examen du permis de conduire parce que vous êtes borgne et que pour moi, vous êtes un peu dangereux. Il faudrait quand même faire un... Et donc, à ce moment-là, il y a eu comme un déclic, en fait. Et il a pas vrillé, mais il s'est dit, mais c'est dégueulasse, en fait.
Alors qu'il y en a qui prennent des 3 PV en deux jours et on leur laisse le permis.
Ils reculent dans des poubelles.
Ils sont
pas borgne.
Ils sont pas borgne.
Du coup, ils reculent dans des poubelles. Je vais reculer dans des poubelles.
Est-ce que du coup ils vont faire un grand voyage à ces gens-là ?
Eh oui.
Ou pas ?
ou pas.
Alors Charles, oui. Charles, il dit, ben, puisque c'est ça, je pars. Alors au départ, il part jusqu'à Marseille. Et tu dis, bon, ça va. Fin...
Ouais, ça va. Ouais, pas bon, terrible.
Voilà. Et il arrive à Marseille et puis il commence à rencontrer des gens qui disent, ouais, mais tu sais, si tu vas jusqu'à Tanger, peut-être. Et puis une fois à Tanger, oui, mais tu sais, la Libye. Et puis en fait, petit à petit, alors c'est quelqu'un qui commence un peu à fumer un peu d'herbe. Enfin, rien de... Certes, il dit la drogue c'est mal, rien de très très grave, mais voilà, petit à petit, il est là-dedans. Puis bon, il a pas d'argent, donc il faut quand même survivre, et il fait une petite pérégrination, un petit road trip qui l'amène petit à petit à la Libye. Puis à la Libye, on lui dit, par contre, ce serait bien si tu pouvais me livrer ces armes vers. Bon, mais ok, et voilà, et petit
toujours
à petit,
en fumant, hein.
Voilà, il a fait ce qu'on appelle le hippie trail. C'était le trajet que faisaient les hippies de l'Europe, donc vers l'Asie dans les années 60-70. Sauf que lui, il n'avait pas du tout. C'est ça la particularité de ce livre. Lui, il n'avait pas les codes hippies. Il n'était pas un sarouel. Il jouait pas du
lui,
djembé.
Il avait des armes.
Personne n'avait envie de découper sa peau de djembé avec un couteau.
Il fumait quand même, mais il avait des armes.
Ouais, oui,
c'est rassurant.
Mais il n'avait pas cette spiritualité. Enfin, il n'avait pas.
C'était un petit voyou.
Il était badass. Enfin, ouais. Il était, voilà. Mais il était Charles, il était lui. Et
oui,
il
Charles du Chaussois, je m'y attendais pas du tout à ce coup de trafic d'armes.
Et en fait, et Charles, priori, petit à petit, il avait
des poètes qui vendaient des armes.
Il avait un peu d'argent et donc il part comme ça et jusqu'à arriver donc à Katmandou où là, ben, il découvre les grosses communautés hippies qui, elles, ont le droit d'être là, puisqu'à Kamandou, là, par contre, c'était légal, on avait le droit. Il y avait des immeubles entiers gratuits pour les gens qui avaient besoin de se défoncer. Et...
Tiens, Pierre Palmade. Pardon. Ça partait.
C'est pas faux.
Moi, je pensais Barjavel.
Alors, justement, voilà. Mais les chemins de Katmandou, de Barjavel. Quoi. Oui. C'est, on voit bien les hippies de Coelho. Enfin, c'est tous les plus grandes.
Ah, faudrait faire une spéciale Barjavel.
Ah, grave.
Ah oui.
Ah, ah, oui. Ah, ça va, on n'est pas au collège.
On l'a déjà
bon,
fait, la SF. Hein.
Non, retour
c'est
au collège.
C'est pas une SF, c'est d'anticipation.
Du collège, oui, Barjavel, vous nous fatiguez. Là.
Non, mais voilà, il y a Barjavel qui a écrit sur les chemins de Katmandou, il y a Coelho qui avait écrit, puis enfin, il y a plein d'auteurs quand même qui ont été inspirés par cette période, mais sur le côté, j'allais dire... hippie, enfin, sur le côté spirituel, sur le côté flower power, enfin, on est en couleur. Alors que Charles du Chaussois, lui, non, il était, il est toujours resté à l'européenne, en fait. Il s'est jamais hippisinéisé. Voilà.
Épisé.
Voilà, il a jamais épisé. Des fleurs, il a
jamais épisé.
Mais
quoi.
Par contre, il y avait des choses qu'il aimait beaucoup chez les hippies, c'était justement cette découverte des stupéfiants. Et petit à petit, ben, de l'herbe, il a hashish et la ganja. Alors moi, j'y connais rien, donc je cite des noms que j'ai lus dans
bien
le.
Sûr,
hein,
bien
voilà.
Sûr.
Ouais, voilà, drogue,
pas
c'est
mal.
Mal.
C'est ça. Si on avait Marlène et Claire, elles pourraient nous expliquer,
là, par contre,
elles sont pas là.
Mais et voilà, et petit à petit, par contre, ben il va, de l'esprit hippie, il avait quand même le côté à l'amour libre, enfin voilà, ou qu'il aimait beaucoup. Et petit à petit, ben il a commencé à goûter, par contre, aux drogues plus entre guillemets, ce qu'on appelle les drogues dures, et notamment l'héroïne. Et c'est de là où vient le nom du titre du livre Flash. Le flash pour lui, c'est une brève mais intense sensation procurée par l'héroïne lorsqu'elle atteint les centres nerveux immédiatement après l'injection. Et la façon dont il le décrit. C'est hyper dangereux parce que ça a l'air somptueux. Ce flash, on a envie de le découvrir, on a envie de le voir, mais quand
il
après,
en est mort, hein, il a
voilà,
fini drogué, il a fait,
et ça a été
il a jamais,
de
il
sa vie,
il s'en est jamais sorti.
Ouais. Voilà, de sa vie, il a
de
toujours essayé
ouais.
de s'en sortir, soir. De.
Il mais d'ailleurs, c'est ça l'addiction, ouais. C'est à vouloir toujours retrouver ce premier flash, mm-hmm. Et cette première sensation. Mm.
Et voilà, et c'est ça qu'il raconte. Alors, il rencontre une femme avec qui il va se marier une première fois. Ils vont se dire, tiens, mais on va essayer d'arrêter ensemble. Mais tu parles, ils prennent tellement de plaisir. Et dans le livre, il décrit comment, à un moment donné, ben, pour couper l'héroïne, ils avaient rien. Alors, ils faisaient de l'urine, ils détaillent des choses pas possibles. Après, il va dans un endroit, ben, ils prennent de l'opium. Il dit, le gars qui me vendait de l'opium avait tout un côté du corps atrophié. Tellement il passait du temps allongé sur les tapis pour vaper l'opium, comme certains vapent de la fraise dans le bureau. Et là, ça commence vraiment à sentir, cher Ludo. Et c'est... voilà.
Qui, pourquoi tu me parles à moi?
Parce que tu es le seul à vapoter de la fraise.
C'est Nico.
Okay.
À côté de toi.
Non, ouais, je vapote.
Non, mais voilà. Et c'est...
je vapote pas, moi, non plus. Là.
Le livre est beau. Le livre est beau. Et en même temps, il est hyper inquiétant parce que ça donne envie de le suivre. On a envie de faire son, son voyage. Et en même temps, on se dit, mais c'est hyper dangereux. Et en même temps, sa notion de flash, elle donne envie. Et puis après, on se dit, bon, mince, quand même, il est mort, il n'avait même pas 50 ans.
Alors, la particularité de ce livre.
Bah quoi, 50?
Il n'a pas écrit. Il a enregistré.
Oui, il a enregistré parce qu'il était incapable d'écrire.
Oui, il était incapable d'écrire. Il a enregistré ses histoires. Ouais. Il a donné 8 bandes à qui? Quelle maison d'édition?
Ah, je sais même plus chez qui c'était.
C'était une grosse maison d'édition. Ouais, il a,
là, c'est chez. C'est, je l'ai chez J'ai lu, mais.
Non, c'est pas J'ai lu.
Non, mais je crois que c'est. En plus, c'est pas Seuil.
Je sais pas.
Attends, je vais regarder.
C'est peut-être Seuil ou Gallimard ou quelque chose comme ça. C'est une grosse maison d'édition.
Peut-être Flammarion, finalement.
Il a enregistré.
Comme ça, on va tomber juste à un moment donné. Non, mais continue à discuter, je cherche. En même temps, est-ce que c'est vraiment nécessaire?
Non, c'est pas nécessaire. Bref, c'est juste pour dire voilà, qu'il a même pas écrit, il a enregistré son histoire chez Fayard. Mmh. Voilà.
Le seul qu'on n'a pas dit, c'est ça?
Ouais, voilà. C'est ça.
Donc voilà, ça a été adapté après en BD.
J'ai découvert ce personnage, je me dis, mais oui, par Jeff.
Ouais,
voilà, c'est par Jeff que ça a été adapté en BD.
Ouais, il n'y a pas très très longtemps. Et c'est assez fou parce que de voir que c'est une histoire vraie, qui a pas les codes qu'on peut attendre de justement de tout ce qui est hippie, enfin il y a pas ce côté
oui parce qu'il y avait ce côté un peu voyou
ouais c'est ça plus voilà jusqu'à la vente d'armes on se dit ok bon il a ce côté un peu mafieux un peu tout ça et en fait
parce
non ce
que
qu'il 40, a tiré
c'était 30 ans 70 donc voilà c'est à cette époque là
oui c'est ça c'est les années c'était vraiment il était en plein Woodstock et il rencontrait des gens comme ça des gens qui lui apprenaient le follower power enfin le tout le monde aime tout le monde enfin et il rentrait pas là-dedans mais par contre il prenait beaucoup de plaisir à tout ce que le reste apportait c'est
il
incroyable.
Était un peu opportuniste ou
non pas je sais pas non je pense addict.
D'accord.
Voilà.
Oui,
c'est ça. Enfin, ouais.
Trois mariages, il a fait.
Oui, mais voilà, et chaque fois, retomber dans des travers. Enfin, voilà, et la drogue ne sortait pas. Et c'est même au contraire, à chaque fois, ça s'empirait. Voilà, c'était terrible, mais c'était beau.
Merci Valérie. Est-ce qu'on parle de avec pas une scène ou pas ou ça n'en vaut pas la peine?
Si on s'ennuie, on peut le lire parce que c'est des petits passages très courts, mais voilà, c'est des petits récits de voyage. Ça s'appelle avec
c'est
pas
québécois.
Une scène. Ils sont une dizaine d'auteurs, des petits jeunes écrivains qui racontent chacun un petit bout de voyage, soit en poésie, soit en prose. Ça peut être ça fait penser un peu à comment ça s'appelle avec Audrey Tautou ou c'est l'auberge espagnole. Non,
pas Amélie Poulain.
Amélie Poulain. Non, pas Amélie Poulain.
À l'auberge espagnole.
Voilà, c'est
Amélie
ça.
Amélie Poulain à l'auberge espagnole.
C'est ça? Ouais, ou c'est qu'il y a trois histoires avec les Russes, tout ça, la poupée
oui.
russe.
Ah oui, c'est ça, russe. C'est voilà. Oui, l'auberge
espagnole. Ça fait penser un peu à ça. C'est ces jeunes qui racontent à un moment donné, ben, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sentent bon le sable chaud. Ça fait deux fois que je dis cette expression d'ambition, c'est terrible.
T'as besoin de
sable.
Hein? T'as besoin de vacances.
Ouais, besoin de vacances, c'est ça. Et du coup, ça, voilà, c'est plein de petites histoires comme ça de voyages, des petits récits, c'est mignon, ça, voilà.
Ok, ben merci beaucoup. Merci pour cette première, Blandine.
Merci
on
à
j'espère
vous.
Qu'on te reverra dans cette émission.
Ouais. Avec plaisir, oui. Si vous m'avez
revenir.
Supporté,
on la réinvitera.
Je reviens.
On te réinvitera. Et on se retrouve le mois prochain, on ne sait pas le thème, on verra.
Tu veux dire qu'on a viré Claire et...
Ah non, elles vont revenir.
Ah non, je ne me permets pas, par contre.
Oh là là, mais on peut faire des émissions à plein. Hein.
Ah ouais?
Oui, bientôt, il va faire beau, on va retourner dans les bars, peut-être dans une librairie, on verra.
Waouh.
Allez, et comme dirait l'autre...
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, il y en a plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.